Et les matins se poursuivent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'Europe se déconfine en ordre dispersé pour sauver notamment la saison touristique, qui pourra voyager cet été et où ? La Commission européenne doit apporter des réponses aujourd'hui.
L'ouverture des frontières, enjeu crucial pour l'agriculture en France, mais aussi en Allemagne, où nous serons dans un instant.
L'Allemagne qui a besoin de la main-d'œuvre venue de Roumanie, vous l'entendrez. À suivre également la multiplication des plaintes de familles contre ce qu'elles appellent l'hécatombe de morts recensées dans les EHPAD en France.
Au troisième jour du déconfinement, nous verrons aussi que le télétravail se prolonge à la demande de certains salariés. On en a parlé il y a quelques instants. Les cadres de demain devront y penser. Les grandes écoles les y forment déjà.
Une partie des députés de La République En Marche s'apprête à faire scission. Y a-t-il danger pour la majorité macroniste à l'Assemblée ? C'est la question que posera Frédéric Seitz dans son billet politique après ce journal. Comment remettre de l'ordre dans les règles en matière de liberté de circulation et de mise en quarantaine ? C'est l'épineuse question à laquelle la Commission européenne doit répondre aujourd'hui, avec à la clé un plan d'aide à l'industrie du tourisme pénalisée par la crise sanitaire. Lourds enjeux économiques, Éric Biegala.
L'Allemagne est probablement le pays le plus strict. Il n'y a pas eu de confinement comme en France. En revanche, toute personne entrant dans le pays, qu'il soit allemand ou étranger, résidant en Allemagne, est soumise à quarantaine systématique de 14 jours. Les travailleurs frontaliers sont néanmoins exemptés. Le régime est déjà en application depuis un mois. L'Espagne a annoncé hier un dispositif similaire, une quarantaine de 14 jours également pour tous les entrants dans le pays à partir de vendredi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Seuls quelques professionnels comme les médecins ou les pilotes d'avion par exemple seront exemptés. Mesure similaire encore annoncée en Grande-Bretagne dimanche, similaire mais plus lâche, une quarantaine de 14 jours également pour tous les voyageurs sauf pour ceux arrivant d'Irlande ou de France. C'est d'ailleurs un accord bilatéral entre les deux pays. La France n'imposera pas non plus de quarantaine aux Britanniques ni aux autres ressortissants européens, mais bien à tous les autres voyageurs internationaux. Enfin, en Italie, le séjour des étrangers dans le pays est pour le moment limité aux déplacements professionnels urgents de 5 jours maximum, pas de mise en quarantaine, et la ministre italienne des Transports le confirmait lundi, son gouvernement n'envisage aucune quarantaine non plus quand les déplacements internationaux non professionnels, c'est-à-dire touristiques, seront à nouveau autorisés.
La réouverture des frontières au cœur donc d'une réunion à Bruxelles aujourd'hui, alors que la France a de nouveau autorisé l'entrée des travailleurs saisonniers sur son sol, une aide précieuse également en Allemagne, notamment pour récolter les asperges avec des petites mains qui viennent surtout de Roumanie. Le reportage de Marie-Pierre Véraud qui s'est rendue dans la ferme de Jakob Jürgen dans le Brandebourg à Bilitz, à une cinquantaine de kilomètres de Berlin. C'est l'une des 10 plus grosses exploitations allemandes avec 250 hectares d'asperges.
Les champs d'asperges s'étendent à perte de vue. Courbés dès 6 heures du matin, des silhouettes creusent, cueillent puis recouvrent vite la terre d'une bâche sous un vent glacial. Ces travailleurs roumains et polonais vont sauver la récolte de Jakob Jürgen, car la saison des asperges a débuté juste au moment où l'Europe fermait ses frontières en raison de la pandémie. Alors, il a fallu innover.
Normalement, ils viennent en bus ou en voiture, mais cette année, il a fallu les faire venir en avion. C'est très cher. Nous avons dû affréter des charters. Cela nous a coûté 50 000 euros par avion et par vol. C'était vraiment très cher. Mais sans cela, nous n'aurions pas eu de travailleurs ici.
Sous la pression des milieux agricoles, le gouvernement allemand a en effet autorisé un pont aérien spécial pour faire venir des milliers de saisonniers. Difficile de recruter des Allemands, rebutés par un salaire de quelques centaines d'euros pour un travail très rude. Risque de Covid ou pas, les saisonniers, eux, n'ont pas hésité. Ils gagnent en 3 mois ici, plus qu'en 9 ans chez eux. Et les Allemands peuvent célébrer leur saison des asperges, un must. Même l'extrême droite a applaudi l'arrivée des charters de Roumains.
Le reportage de Marie-Pierre Véraud avec Nicolas Mathias à la technique pour France Culture.
8h04 sur France Culture avec la suite du journal de Catherine Dutu. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre à la suite d'une plainte déposée par la famille d'un résident d'un EHPAD de Chaville décédé des suites du Covid-19.
Enquête ouverte pour homicide involontaire donc en région parisienne, ouverte également pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Ce type de plainte se multiplie. Des familles ont même créé une association pour dénoncer ce qu'elles appellent l'hécatombe de mort recensés dans les EHPAD. Antoine Marette.
Collectif 9471, c'est le nom de cette association. 9471, C'est le nombre de morts recensés dans les EHPAD le 5 mai 2020, jour de la création de cette association. Parmi ces victimes, la grand-mère d'Olivia Mokiejewski, présidente du collectif. Elle était résidente dans un établissement à Clamart.
On s'est très vite rendu compte avec d'autres familles de victimes qu'on avait à peu près tous la même histoire. C'est-à-dire qu'on pouvait tous reprocher à ces établissements, que ce soit Corian ou les autres, un manque de transparence. On était, nous, familles, tenues complètement à l'écart de ce qui se passait dans ces maisons. Donc on a vraiment eu le sentiment qu'on nous cachait la réalité de la situation. On a eu le sentiment également que toutes les mesures de précaution n'ont pas été mises en place, contrairement à ce que clament ces grands groupes.
L'objectif de cette association est de se porter partie civile dans chacune des procédures lancées par les plaintes individuelles. Des plaintes le plus souvent contre X, car pour les familles de victimes, les responsabilités ne s'arrêtent pas à la porte des EHPAD. Elles montrent du doigt également les agences régionales de santé et les grands groupes qui sont derrière ces maisons de retraite. Maître Emmanuel Daoud est l'avocat du groupe Corian. Il dénonce un procès médiatique.
Je comprends parfaitement la douleur, la colère que peuvent susciter des décès des résidentes et des résidents concernés. Mais la justice pénale est une justice qui doit pouvoir avancer, travailler sereinement. Et à partir du moment où l'on saisit les médias pour faire avancer ces dossiers, on ne permet pas à la justice pénale de travailler sereinement.
On estime en France que plus d'un tiers des victimes du Covid-19 résidaient en EHPAD.
Et par ailleurs, 36 plaintes contre des membres du gouvernement ont été déposées auprès de la Cour de justice de la République pour dénoncer la gestion de l'exécutif de la crise du coronavirus. 36 plaintes, c'est ce qu'a annoncé hier le procureur général François Molins. En ces premiers jours de déconfinement, Jean Castex, le coordinateur national à la stratégie du déconfinement, a été auditionné hier soir à l'Assemblée nationale. Il a dressé un bref état des lieux, dessiné quelques perspectives et l'on a pu constater que beaucoup de choses seront adaptables en fonction de l'évolution de l'épidémie. Audition suivie par Stéphane Robert.
À la question comment se passe le début du déconfinement, Jean Castex reste prudent et évasif.
Comment ça se passe ? Bon, moi j'ai envie de vous dire que ça se passe un peu comme on l'avait prévu.
Il faut sans doute comprendre qu'il y a des difficultés, mais rien de dramatique à ce stade. Autre question, elle concerne les masques. Où en est-on ? Réponse, l'État en fournit un certain nombre, les gens s'équipent, mais c'est encore un peu la pénurie.
Sur les masques, on peut y considérer qu'à la mi-juin, la question quantitative des masques, y compris en vente, etc., partout, pourra être résolue.
Ensuite, lui est posée la question des tests. Est-ce qu'on est prêt pour atteindre l'objectif annoncé qui est de réaliser 100 000 tests par jour, 700 000 tests par semaine ?
Est-ce que oui ou non, on pourra faire 100 000 tests par jour ? J'ai tout lieu de le croire. Mais moi, ma première crainte, c'est pas tellement qu'on manque de tests, c'est que les gens n'aillent pas se signaler et se faire tester.
Plus globalement, il faut que les Français respectent les consignes qui leur sont délivrées, a expliqué Jean Castex, qu'ils se responsabilisent. C'est la clé principale de la réussite du déconfinement, selon lui. Et s'il y a trop de relâchement, il faudra reconfiner.
Le reconfinement, les Allemands, ils appellent ça le coup de frein. Donc voilà, un, il faut le prévoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Deux, il peut concerner l'ensemble du pays ou des territoires, si possible localisés. Et il faut que nous ayons une capacité de réaction la plus rapide possible.
Autrement dit, l'évolution de l'épidémie est imprévisible et rien n'est exclu d'ici à début juin.
Déconfinement progressif, on l'a bien compris. Et si les parcs et jardins ne rouvriront pas à Paris, ce que déplore la maire Anne Hidalgo, en revanche, certaines plages peuvent de nouveau accueillir des promeneurs à partir d'aujourd'hui, comme au Conquet, à l'ouest de Brest, ou encore à La Baule et à Pornichet. De leur côté, les guides de montagne se félicitent de pouvoir reprendre partiellement leur activité. À la suite d'un avis du Conseil scientifique, le gouvernement a donné son feu vert hier à l'installation des conseils municipaux élus dès le premier tour. Le scrutin remonte au 15 mars, mais 30 000 maires ont pu être élus à l'issue de ce premier tour. Et hier, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a indiqué qu'un décret serait publié vendredi pour une entrée en fonction des conseillers municipaux lundi. D'ici le 28 mars, 30 000 communes auront donc réglé la question des municipales. Pour les autres, près de 5 000, reste à organiser un second tour. Quand cela est dans quelles conditions ? Le Conseil scientifique doit répondre à ces questions le 23 mai prochain. La crise sanitaire n'étant pas terminée, le télétravail va se poursuivre dans le temps. C'est déjà le lot quotidien d'un quart des salariés français confinés. Le télétravail encouragé par le ministère du Travail en région Île-de-France également pour limiter les retours sur sites professionnels et l'encombrement dans les transports. Et du côté des salariés, il y a tous ceux pour qui l'expérience est exténuante, faute d'espace ou d'équipement suffisant, parce qu'il faut en plus garder les enfants pour certains. Et puis il y a ceux, très nombreux, qui aimeraient continuer le télétravail, Catherine Pétillon.
Si les réactions sont si hétéroclites, c'est parce qu'à la diversité des situations personnelles s'ajoute la très inégale préparation des entreprises, souvent faible, là où il n'y a ni charte ni accord sur le télétravail. Rappelons qu'ils ne sont plus obligatoires depuis les ordonnances de 2017. Le gouvernement vient de publier un simple guide pour rappeler les règles existantes, mais certains employeurs se sont mis à négocier des cadres pour le télétravail. C'est le cas du GART, une association de collectivités locales déjà habituée au télétravail, mais pour son secrétaire général, Alexandre Magny, les salariés devraient être bien plus nombreux qu'avant à vouloir télétravailler. De quoi déclencher une réflexion plus large sur l'usage à l'avenir de leurs locaux parisiens.
L'idée, c'est de partager les bureaux dans le temps, c'est pas forcément de les partager dans l'espace. C'est-à-dire d'organiser un roulement des différents salariés. Ça nécessite de changer vraiment les mentalités et le management et l'organisation du travail et les missions de chacun. Pour moi, demain, quand on viendra au bureau, c'est pour avoir des échanges entre salariés que la visioconférence ou l'appel téléphonique ne permet pas forcément.
Devant l'ampleur des questions d'organisation potentiellement soulevées dans les entreprises, les syndicats de salariés appellent au dialogue social. Jean-François Foucard de la CFE-CGC.
Avec ces normes de distanciation, l'aménagement de l'espace va poser un certain nombre de sujets dans les entreprises. Faut-il créer de l'alternance, du télétravail? Comment on gère tous ces flux de personnel dans un espace réduit? Et donc, on peut imaginer que l'organisation du travail va fortement évoluer, comme elle avait fortement évolué avec les 35 heures. Et pour nous, nous devrions avoir des négociations aussi intenses qu'il y a une vingtaine d'années.
De l'immobilier de bureau aux rotations des équipes, c'est en fait un vaste champ de questions que pose l'organisation future du télétravail.
Le télétravail peut être l'occasion pour vous de vous mettre au vert. Le confinement a-t-il permis de concrétiser une envie d'espace que vous aviez? Vos témoignages sont attendus sur les réseaux sociaux. Hashtag je quitte la ville pour notre reportage interactif du vendredi à retrouver sur France Culture à 7h24 ce vendredi donc. Eux aussi encouragent le télétravail partiel pour limiter l'empreinte carbone des trajets domicile-travail. Une soixantaine de parlementaires, y compris au sein de la majorité, dévoilent ce matin 30 propositions pour le jour d'après la crise sanitaire du coronavirus autour de 4 axes: santé, sobriété, solidarité et souveraineté. Ces parlementaires proposent notamment de créer un revenu universel en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans, en ouvrant encore 200 000 postes en 3 ans dans les EHPAD et les services d'aide à domicile. Une démarche politicienne dénoncée par le chef de file des marcheurs à l'Assemblée, Gilles Legendre, qui craint que de nouveaux députés LREM n'entrent en dissidence. Le télétravail encore et plus largement la question de la crise sanitaire, de nouveaux défis pour les cadres d'aujourd'hui et pour ceux qui se forment au management pour les années à venir. Les grandes écoles révisent déjà leur offre pédagogique pour leurs élèves, Hakim Kasmi.
Comment gérer une crise sanitaire dans une administration ou une entreprise? C'est ce que vont devoir apprendre les futurs ou actuels cadres dirigeants. Il faut dire que la demande va être de plus en plus importante. C'est ce qui a donc motivé Sciences Po Lille et l'EDEC Grande École de Commerce à créer un nouveau double diplôme en management public. Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille.
Je pense que ça doit sans doute nous inviter à muscler nos enseignements autour de la gestion de crise. Donc je pense qu'il va falloir qu'on intègre ces questions-là. Il y a des travaux qui existent. Il y a des travaux qui ont été faits sur Tchernobyl, des travaux qui ont été faits sur la maladie de la vache folle, d'ailleurs sur le sida. Moi aussi j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, on va essayer de s'adapter à cette nouvelle donne à la rentrée prochaine.
La crise sanitaire qui va également changer nos méthodes de travail avec la généralisation du travail à distance. Ce qui aura des conséquences sur le management des équipes, selon Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble École de Management.
Le télétravail risque de devenir la norme et plus l'exception, ce qui va entraîner un nouveau pacte social et donc une nouvelle approche en termes de management, en termes de droit social, en termes de relations avec les instances sociales pour les managers qui devront être capables de gérer à distance.
Enfin, les grandes écoles vont devoir elles aussi se réinventer, adeptes de la globalisation dans la formation de leurs étudiants. Elles vont devoir se recentrer dans de nouveaux secteurs comme l'intelligence artificielle, le développement durable ou encore le changement climatique.
Et alors que certains réfléchissent à un monde d'après plus respectueux de l'environnement, les banques françaises continuent-elles à investir dans les secteurs les plus polluants comme le pétrole ou le gaz de schiste? 24 milliards d'euros investis dans le secteur depuis 2016. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport d'ONG intitulé « La place financière de Paris est au fond du puits ». Rapport publié aujourd'hui alors que démarrent en ce moment les assemblées générales des grandes banques françaises comme celle du Crédit Agricole aujourd'hui. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est arrivé ce matin en Israël Israël pour discuter du projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée par le nouveau gouvernement israélien. C'est le premier déplacement à l'étranger de Mike Pompeo en près de 2 mois. En plus de ce dossier sensible, le chef de la diplomatie américaine doit discuter de l'Iran, l'ennemi numéro 1 de l'État hébreu qui est soupçonné d'avoir multiplié les frappes contre des positions iraniennes en Syrie voisine ces dernières semaines. Un mot du temps de ce mercredi 13 mai marqué par de la fraîcheur ce matin et de l'humidité dans la journée. Côté Mercure, ne comptez pas plus de 13 à 18 degrés en général du nord au sud aujourd'hui, mais jusqu'à 25 degrés à Ajaccio, Guillaume Hermé.
Merci Catherine Dutu.